Si notre injustice met en évidence la justice de Dieu, que dirons-nous ? Romains chapitre 3, versets 1 à 8. Quel est donc l'avantage des Juifs ? Ou quelle est l'utilité de la circoncision ? Il est grand de toute manière, et tout d'abord en ce que les oracles de Dieu leur ont été confiés. Et quoi ? Si quelques-uns n'ont pas cru, leur incrédulité anéantira-t-elle la fidélité de Dieu ? Loin de là, que Dieu au contraire soit reconnu pour vrai, et tout homme pour menteur, selon qu'il est écrit, afin que tu sois trouvé juste dans tes paroles et que tu triomphes lorsqu'on te juge. Mais si notre injustice établit la justice de Dieu, que dirons-nous ? Dieu est-il injuste quand il déchaîne sa colère ? Je parle à la manière des hommes. Loin de là. Autrement, comment Dieu jugerait-il le monde ? Et si par mon mensonge, la vérité de Dieu éclate davantage pour sa gloire, pourquoi suis-je moi-même encore jugé comme pécheur ? Et pourquoi ne ferions-nous pas le mal afin qu'il en arrive du bien, comme quelques-uns qui nous calomnient, prétendent que nous le disons ? La condamnation de ces gens est juste. Même s'ils croyaient, quel avantage y avait-il ? Quel avantage le Juif a-t-il sur le païen ? Les Juifs sont ceux à qui la parole de Dieu a été confiée. Dieu a appelé Abraham et lui a promis une descendance, puis il a donné la loi à ses descendants. Et à travers le système sacrificiel, il a promis d'envoyer le Sauveur. Si les Juifs avaient un avantage sur les païens, c'était qu'ils avaient le Père de la foi, qu'ils avaient reçu la parole de Dieu et qu'ils étaient devenus une nation qui craignait Dieu. Romains chapitre 2, verset 17, et les versets suivants mentionnent précisément l'avantage que le Juif avait sur le païen. Leur avantage était qu'ils avaient reçu la circoncision. La circoncision était le signe de la promesse que Dieu deviendrait le Dieu d'Abraham et de sa descendance. Physiquement, c'était l'acte de couper le prépuce masculin, mais spirituellement, cela signifie retrancher les péchés d'une personne en croyant à l'évangile de l'eau et de l'esprit. Cependant, les Juifs n'avaient pas reçu la circoncision spirituelle, mais n'étaient que des descendants d'Abraham ayant reçu la circoncision physique. L'Écriture demande, s'ils ne croyaient pas spirituellement en Jésus et n'étaient pas affranchis du péché par l'eau et l'esprit, quel avantage y avait-il pour eux ? En fin de compte, cela signifie qu'ils n'avaient aucun avantage sur les païens. Cela s'applique également aux personnes religieuses qui suivent le christianisme aujourd'hui. Même si quelqu'un est appelé chrétien, s'il ne croit pas à l'évangile de l'eau et de l'esprit donné par le Seigneur, il n'est en aucun cas supérieur à ceux qui croient en d'autres religions. La véritable foi chrétienne consiste à croire en Jésus. Et cela signifie croire au baptême de Jésus et au sang de la croix. Dans le monde, il existe d'innombrables religions telles que le confucianisme, le bouddhisme, l'hindouisme, l'islam et le catholicisme. Mais parmi ces religions, y en a-t-il une qui possède la vérité, qui ôte le péché de l'homme ? Il n'y en a pas une seule. Aucune religion dans le monde ne peut ôter le péché d'une personne. L'Écriture dit « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » Actes chapitre 4, verset 12. S'il y a du péché dans le cœur de celui qui croit au bouddhisme, et qu'il y a encore du péché dans le cœur de celui qui dit croire en Jésus, qu'est-ce qui rend alors le chrétien meilleur ? Si un bouddhiste récite des prières et fait l'aumône lorsqu'il pêche, et que les chrétiens de même viennent à l'église, donnent des offrandes, servent et ne cherchent qu'à apaiser leur propre cœur, alors ils ne sont pas différents des personnes d'autres religions. Une telle foi n'a aucun avantage. Jésus a dit que si quelqu'un ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut voir le royaume de Dieu ni y entrer. Si quelqu'un ne connaît pas la vérité de la nouvelle naissance d'eau et d'esprit, alors même s'il croit en Jésus, il n'y a absolument aucun bénéfice. En réalité, le message que l'apôtre Paul proclame ici lance un défi très solennel et immense aux chrétiens d'aujourd'hui. Nous devons tous retourner à l'évangile de l'eau et de l'esprit. Même ceux qui sont actuellement dans l'Église doivent de maintenant croire à l'évangile de l'eau et de l'esprit et revenir devant Dieu. Aujourd'hui, de nombreux chrétiens s'efforcent d'amener les gens à l'Église. Mais la réalité est qu'après avoir évangélisé, ils ne sont pas capables d'enseigner pleinement la justice de Dieu. C'est un résultat naturel qu'ils ne puissent pas l'enseigner, car eux-mêmes ne connaissent pas l'évangile de l'eau et de l'esprit. Cependant, si quelqu'un est un croyant chrétien, il doit naturellement croire à l'évangile de l'eau et de l'esprit que Dieu le Père a donné par Jésus-Christ. Par cela, il faut que tous les péchés soient ôtés, obtenir la justice de Dieu dans son cœur et revenir à Dieu. Romains n'est pas un livre qui s'adresse simplement aux Juifs du passé. C'est un avertissement que s'il y a des personnes qui ne sont pas nées de nouveau parce qu'elles ne croient pas à l'évangile de l'eau et de l'esprit, elles doivent même maintenant retourner à cet évangile. Les chrétiens doivent de s'examiner attentivement pour voir s'ils croient réellement à l'évangile de l'eau et de l'esprit. Et s'ils ont cru de manière erronée, ils doivent rapidement se détourner et revenir. Comme le dit la parole, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel. Ésaïe chapitre 11, verset 9. L'évangile de l'eau et de l'esprit est actuellement proclamé abondamment dans le monde entier. C'est maintenant une époque où personne ne peut se justifier en disant qu'il ne connaît pas cet évangile. Quelle est l'apparence du christianisme aujourd'hui? Extérieurement, il peut sembler différent des autres religions, en célébrant des mariages et des funérailles de manière chrétienne et en tenant des services commémoratifs au lieu des rites ancestraux. Cependant, si l'on regarde à l'intérieur, il y a de nombreux cas où tout est vide, ne connaissant rien de l'évangile de l'eau et de l'esprit. Par conséquent, nous devons absolument retourner à la foi qui croit en l'évangile de l'eau et de l'esprit. On ne peut entendre cet évangile que lorsqu'on rencontre quelqu'un qui connaît et croit en la véritable justice de Dieu. C'est le trésor de la rémission des péchés qui était caché dans le plan de Dieu, comme le dit la Bible. Certains rejettent cet évangile même après l'avoir entendu. Mais nous sommes sincèrement reconnaissants devant Dieu d'avoir rencontré cette vérité. Dans le passé, moi aussi, je me demandais constamment quelle était la raison pour laquelle Jésus a été baptisé. Même si j'ai interrogé d'innombrables personnes réputées connaître la Bible, personne ne m'a donné de réponse claire, mais finalement, Dieu m'a permis de réaliser cette vérité. La réponse se trouvait dans Matthieu chapitre 3, verset 15. Le baptême de Jésus était la justice de Dieu qui a pris sur elle et a ôté les péchés de toute l'humanité. Dieu m'a rencontré par cette justice et a ôté tous mes péchés. Et il m'a fait vivre jusqu'à maintenant comme quelqu'un qui prêche l'évangile de l'eau et de l'esprit. Par la grâce de Dieu, j'ai prêché l'évangile de l'eau et de l'esprit sans en omettre une seule fois jusqu'à présent. Dans l'Église de Dieu, cet évangile doit toujours être proclamé abondamment. Sinon, votre foi et vos âmes là se dessécheront. Et finalement, vous perdrez votre foi et n'aurez d'autre choix que de devenir éternellement éloigné de Dieu. De l'école du dimanche, au groupe des jeunes adultes, au groupe des hommes et au groupe des femmes, chaque membre doit entendre l'évangile de l'eau et de l'esprit et être rempli de foi. Quiconque croit et prêche l'évangile de l'eau et de l'esprit, qui contient la justice de Dieu, devient celui qui a reçu la rémission des péchés et obtenu la justice de Dieu. Celui qui croit en la justice de Dieu a déjà obtenu la liberté de tous les péchés. Par conséquent, par cette justice obtenue par la foi, on en vient désormais à vivre pour la justice de Dieu. Seuls ceux qui croient en la justice de Dieu de cette manière peuvent jouir des bénédictions spirituelles du ciel. La justice de Dieu est l'évangile de l'eau et de l'esprit. Il est écrit dans Romains chapitre 3, verset 3 « Et quoi, si quelques-uns n'ont pas cru ? Leur incrédulité anéantira-t-elle la fidélité de Dieu ? Parce que les hommes ne croient pas à la justice de Dieu, cette justice devient-elle sans effet ? Certainement pas. Même si nous ne croyons pas, la justice de Dieu ne disparaît jamais. C'est parce que Dieu n'est pas celui qui annule sa justice à cause de l'incrédulité humaine. Dieu nous a sauvés du péché éternel par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Et celui qui croit cela reçoit la rémission de tous les péchés par la foi. » Il n'y a aucune raison que Dieu subisse une perte simplement parce que les pécheurs ne croient pas. Cette perte appartient uniquement à celui qui ne croit pas. La justice de Dieu n'est pas ébranlée par l'incrédulité humaine. Parce que Dieu a véritablement ôté les péchés de tous les pécheurs par sa justice, l'incrédulité de quelqu'un ne peut pas annuler la fidélité de Dieu. Ici, fidélité signifie être véridique. Et c'est un terme qui indique que la vérité de la rémission des péchés, que Jésus a accomplie en étant baptisé par Jean et en versant son sang sur la croix, ne change jamais. La justice de Dieu qui donne la rémission des péchés existe éternellement avec l'évangile de l'eau et de l'esprit. Dieu nous a-t-il réellement sauvés des péchés du monde par l'évangile de l'eau et de l'esprit? Oui. La justice de Dieu apparaît et est attestée uniquement dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. La vérité par laquelle toute l'humanité peut être sauvée est contenu dans cet évangile. Alors, qu'est-ce que l'évangile de l'eau et de l'esprit ? Dieu a envoyé son Fils unique Jésus-Christ sur cette terre pour sauver les pécheurs de tous les péchés. Jésus a rendu visite à Jean-Baptiste, le représentant de l'humanité, au Jourdain à l'âge de 30 ans, lorsqu'il a commencé son ministère public. En étant baptisé par lui, il a pris sur son corps tous les péchés de l'humanité. Selon la parole de Matthieu chapitre 3, versets 15 à 16, Jésus qui a porté les péchés du monde par le baptême, a reçu à notre place le jugement du péché en étant cloué à la croix et en versant son sang. Le baptême que Dieu a accompli et le sang de la croix constituent le salut parfait qui a ôté les péchés de tous les pécheurs. Le ministère véritable que Jésus a accompli en venant sur cette terre est précisément l'évangile de l'eau et de l'esprit. Ce n'est ni une doctrine religieuse ni une fiction, mais une œuvre véritable réellement accomplie pour sauver les pécheurs. La Bible dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Jean chapitre 3, versets 16 à 17. La raison pour laquelle Dieu le Père a envoyé son Fils unique est de nous sauver, toi et moi, de tous les péchés. Il a envoyé Jésus à cause de cet amour envers l'humanité. Jésus a été baptisé par Jean pour ôter les péchés du monde. Dieu n'a pas aimé seulement en parole, mais il a confirmé cet amour en envoyant son Fils bien-aimé et en lui faisant porter les péchés du monde sur son corps. L'évangile de l'eau et de l'esprit a ôté les péchés du monde entier. Si nous croyons simplement ce fait que Jésus a pris sur lui tous les péchés de l'humanité par le baptême, est mort sur la croix, puis est ressuscité, nous jouissons de la bénédiction de recevoir la rémission de tous les péchés. C'est un salut véritable accompli par le baptême réel et le sang. L'amour véritable n'est jamais annulé. Par conséquent, celui qui croit en cet évangile obtient le salut du péché et celui qui ne croit pas reçoit le châtiment à cause du prix de son propre péché. Ce n'est pas parce que nous ne croyons pas que la valeur du baptême et du sang par lesquels Dieu a ôté nos péchés disparaît. Même si le ciel et la terre passent, la justice de Dieu accomplie pour nous est éternelle. Ici, nous devons réfléchir aux bénéfices de la foi. Entre croire et ne pas croire, lequel est bénéfique? Dieu nous a aimés et il a unilatéralement ôté les péchés du monde par Jésus, même avant de demander notre consentement. Si l'on ne croit pas à cet amour et à cette justice unilatéraux, cela ne sera qu'une grande perte pour soi-même. Si l'on croit en la justice de Dieu que Jésus a accomplie, on reçoit l'élimination éternelle des péchés et on jouit de la vie éternelle. Dieu a-t-il transféré tous les péchés, même des plus grands pécheurs, par le baptême que Jésus a reçu? Oui. Qu'il s'agisse d'un simple citoyen ou d'un criminel odieux, il a ôté tous les péchés que toute l'humanité commet tout au long de la vie. Il a ôté tous les péchés par le baptême de Jésus et le sang de la croix. Celui qui croit en cet évangile de l'eau et de l'esprit reçoit le bénéfice de l'élimination des péchés. Et celui qui ne croit pas est exclu de cette bénédiction. La foi des faux croyants ne peut pas annuler la fidélité de Dieu. Dieu a déjà ôté les péchés de tous les hommes par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Même si ceux qui ont une fausse foi essaient de ne pas croire à cette vérité, la justice de Dieu n'est absolument jamais ébranlée. Si quelqu'un croit seulement au sang de la croix, le péché demeure inévitablement dans son cœur. Cela est dû au fait qu'on ne peut pas obtenir un salut parfait uniquement par le sang de la croix. Jésus n'a pas accompli seulement l'œuvre de verser son sang. En étant baptisé par Jean à l'âge de 30 ans, il a d'abord pris sur lui tous les péchés du monde, puis il est allé à la croix. S'il n'avait pas pris les péchés par le baptême, la mort de Jésus sur la croix serait devenue une mort sans rapport avec nous. Parce que Jésus a été baptisé, il a pu aller à la croix, et par ce baptême, il a pris sur lui les péchés du monde une fois pour toutes. Par conséquent, son baptême et sa mort exercent l'efficacité du salut pour ceux qui croient. Dans Ésaïe chapitre 53, verset 5, il est dit « Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités ». Le fondement du fait que Jésus a été brisé sur la croix est qu'il a pris nos péchés par le baptême. S'il n'avait pas pris les péchés par le baptême, il n'y aurait eu aucune raison qu'il soit frappé ou brisé. Mais pourquoi tant de personnes ne croient-elles pas à l'évangile de l'eau et de l'esprit? C'est parce qu'ils ne connaissent pas la signification de l'immense bénédiction contenue dans le baptême que Jésus a reçu de Jean. Certains disent que le baptême de Jésus n'est pas important et qu'il n'est qu'un symbole d'humilité. Ils demandent aussi si la Bible met l'accent uniquement sur le sang de la croix. Cependant, Dieu a déjà consigné la vérité du baptême dans toute la Bible. Le baptême de Jésus dans le Nouveau Testament est identique à l'imposition des mains, effectuée sur la tête de l'offrande sacrificielle dans l'Ancien Testament. Le Jourdain, où Jésus a été baptisé, est le lieu où l'œuvre de retrancher les péchés de toute l'humanité a eu lieu. Dans l'Ancien Testament, lorsque les sacrificateurs portaient l'Arche de l'Alliance et entraient dans le Jourdain, les eaux du fleuve s'arrêtaient, et lorsque le général Naaman s'est plongé 7 fois dans le Jourdain, sa maladie a été guérie. Tous ces événements sont liés au baptême de Jésus. Tout comme un pécheur dans le tabernacle imposait les mains sur la tête d'une offrande sans défaut pour transférer ses péchés, Lévitique chapitre 4 versets 1 à 32, Jésus-Christ, venu comme le Messie, a aussi été baptisé selon cette loi du sacrifice et a versé son sang, éliminant ainsi tous les péchés. Croire vaguement qu'il a pris les péchés à la croix sans connaître la raison pour laquelle Jésus a été baptisé par Jean n'est qu'une pensée humaine. Nulle part dans la Bible, il n'est écrit que Jésus a d'abord pris les péchés du monde sur la croix. Au contraire, Jésus dit qu'il a accompli toute justice en étant baptisé dans le Jourdain. Matthieu chapitre 3, versets 13 à 17, Galates chapitre 3, versets 27, Romains chapitre 6, 1 épître de Pierre chapitre 3, versets 21. En d'autres termes, parce qu'il a pris nos péchés par le baptême, il a pu mourir sur la croix. Une personne qui ne connaît que le résultat en omettant le processus ne peut pas répondre lorsqu'on lui demande plus tard le processus précis. Celui qui peut expliquer le processus en détail est celui qui connaît correctement le résultat. Pour prêcher la justice de Dieu, il faut avoir une foi qui croit en détail à l'évangile de l'eau et de l'esprit. La Bible déclare clairement que l'on ne peut voir et entrer dans le royaume de Dieu qu'en naissant d'eau et d'esprit. On ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu en croyant seulement au sang de la croix. Croire seulement au sang de la croix, c'est ne connaître que la moitié de la vérité. Le cœur de la Bible est l'évangile de l'eau et de l'esprit, ainsi que la divinité et l'humanité de Jésus-Christ. Que Jésus nous a sauvés en étant baptisés et en mourant sur la croix, c'est là la véritable élimination des péchés. Les chrétiens doivent croire en cet évangile de l'eau et de l'esprit. C'est parce que, s'ils ne croient pas cela, ils ne peuvent finalement pas échapper au jugement du péché. Bien que la justice de Dieu ne disparaisse pas parce que beaucoup ne croient à pas, seuls ceux qui croient en cet évangile découvrent l'élimination des péchés et le chemin vers le ciel. Tous ceux qui croient en Jésus ne sont pas nés de nouveau. Comme Judas Iscariot, même si quelqu'un est aux côtés de Jésus, s'il ne croit pas à l'évangile de l'eau et de l'esprit, il suit sa propre voie. Mais celui qui croit au mérite du baptême de Jésus et de la croix est délivré de tous les péchés. Parce que la justice de Dieu est une œuvre qu'il a planifiée et accomplie unilatéralement, elle existe pour toujours et nous devons croire en cette justice. Le salut que Dieu le Père a accompli par son Fils unique est éternel et immuable. Pierre et Judas Iscariot ont tous deux péché devant Dieu, mais la différence de foi a séparé leur destinée. Pierre a renié et maudit Jésus, mais il savait qui était le Sauveur qui ôterait ses péchés, alors il est revenu et a obtenu le salut. D'autre part, Judas a ressenti des remords de conscience et a tenté de résoudre le péché par lui-même, finissant par se suicider. La véritable repentance consiste à devenir un enfant de Dieu en croyant à l'évangile de l'eau et de l'esprit, peu importe la gravité du péché commis, comme Pierre. Chercher à assumer soi-même la responsabilité du péché est une fausse repentance. Revenir dans la fidélité de Dieu par la foi. Nous devons revenir dans la fidélité de Dieu. Le seul moyen de revenir est la foi seule. C'est croire que Dieu nous a réellement aimés et nous a sauvés par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Celui qui ne revient pas à cet évangile ne peut pas éviter le châtiment de l'enfer. Dieu ne veut que personne aille en enfer et il attend que tous croient à l'évangile et entrent au ciel. Ne faites pas attendre Dieu trop longtemps. Tous sont menteurs, mais Dieu seul est vrai. Dans Romains chapitre 3, verset 4, il est écrit « Loin de là ». Que Dieu, au contraire, soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur, selon qu'il est écrit, afin que tu sois trouvé juste dans tes paroles et que tu triomphes lorsqu'on te juge. Quelle est la raison pour laquelle la Bible proclame que tous les hommes sont faux, mais que Dieu seul est vrai? C'est parce que le Seigneur est venu sur cette terre exactement comme il l'a dit et a parfaitement accompli l'œuvre de nous sauver du péché. Les êtres humains sont des êtres qui ne peuvent s'empêcher d'être toujours faux et mauvais. Mais Dieu est toujours vrai. Où apparaît la véracité de Dieu? Elle apparaît précisément dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. La seule manière pour l'homme d'être délivré de sa propre fausseté est de croire uniquement à la parole de l'évangile de l'eau et de l'esprit que Dieu a promise et accomplie. Cet évangile nous fait vaincre la fausseté humaine et les péchés et nous délivre de toute injustice. Comment Dieu juge-t-il et décide-t-il du péché des hommes? Dieu regarde s'il y a du péché dans le cœur d'une personne ou non. Et s'il y a la foi qui croit à l'évangile de l'eau et de l'esprit, et il juge et décide. Si nous possédons la foi qui connaît et croit la parole de Dieu, cette foi nous conduira au ciel. Cependant, celui qui ne croit pas à cette parole reçoit le châtiment comme cela est écrit dans la parole. En fin de compte, le fait que nous puissions vaincre le péché et la fausseté n'est possible que par la foi qui croit en la parole de Dieu. Le texte d'aujourd'hui cite la confession de David consignée dans le psaume 51. David s'est repenti et a prié ainsi « J'ai péché contre toi seul, et j'ai fait ce qui est ce mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. » À ce moment-là, David n'a pas seulement commis le péché d'adultère, mais pour prendre la femme d'un autre, il a placé son mari au premier rang du champ de bataille et l'a fait mourir indirectement. David était une personne qui a nourri la convoitise, commis l'adultère, tué et violé misérablement la loi de Dieu. À ce moment-là, le prophète Nathan vint vers David et lui raconta une parabole. Un certain homme pauvre n'avait qu'une seule petite brebis. Mais lorsqu'un voyageur vint chez un homme riche, celui-ci, qui avait un très grand nombre de brebis, prit la brebis du pauvre et la prépara pour l'homme qui était venu chez lui. En entendant cette histoire, David se mit dans une grande colère et s'écria « Où est un homme aussi méchant? Cet homme doit sûrement être maudit. » Alors Nathan dit à David « C'est toi cet homme ?» Devant ces paroles, David ne pouvait plus faire d'excuses. Il a tout déversé devant Dieu et a confessé « Si tu dis que tu es juste dans ton jugement, tu es juste. Et si tu dis que je suis injuste, je suis injuste. Je ne remets pas cela à mon jugement, mais à ton jugement. Si le Seigneur dit que tu as ôté mes péchés, je crois que j'ai reçu l'élimination. » David avait confié toute sa destinée au jugement de Dieu et à l'élimination des péchés. Nous qui croyons en Jésus devons aussi avoir cette même attitude devant Dieu. Peu importe la situation dans laquelle nous nous trouvons, le verdict final dépend de Dieu. Si Dieu dit que cela est bon, alors c'est bon, et s'il dit que ce n'est pas ainsi, alors ce n'est pas ainsi. La Bible dit « Afin que tu sois trouvé juste dans tes paroles et que tu triomphes lorsqu'on te juge. » Romains chapitre 3, verset 4. Dieu a promis d'envoyer un sauveur pour nous sauver, et selon cette promesse, il a envoyé Jésus-Christ. Jésus-Christ nous a sauvés en étant baptisés, en versant son sang et en mourant sur la croix, puis en ressuscitant. Toutes les œuvres que le Seigneur a accomplies sur cette terre ont été exactement selon la parole que Dieu avait promise. Par conséquent, le jugement aussi se fait selon cette parole. Il sera exécuté selon la parole qui accorde le salut à ceux qui croient à l'évangile de l'élimination des péchés, mais qui donne la malédiction et le châtiment de l'enfer à ceux qui ne croient pas en la justice de Dieu. La manière dont Dieu triomphe de ses adversaires est d'agir selon la vérité de la parole promise. La parole véridique de Dieu triomphe de toute fausseté. Dieu n'a jamais prononcé un seul mensonge et ne commet pas le moindre mal. La bonté de Dieu est parfaite. Par conséquent, Dieu a parfaitement accompli cette promesse de sauver l'humanité du péché par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Ceux qui vont en enfer, même après avoir cru en Jésus. Bien que les gens disent qu'ils croient en Jésus, s'ils ne croient pas à l'évangile de l'eau et de l'esprit et se tiennent devant Dieu, avec le péché encore présent dans leur cœur, Dieu n'a d'autre choix que d'exécuter un jugement juste. À ce moment-là, certains pourront protester. « Seigneur, j'ai cru en Jésus, alors pourquoi me condamnes-tu à l'enfer ? Dois-je aller en enfer simplement parce que j'ai un peu de péché ? » Alors le Seigneur dira ceci. « N'ai-je pas promis d'ôter tous tes péchés ? Et ne suis-je pas venu sur cette terre selon cette promesse ? N'ai-je pas reçu le baptême pour toi et pris tous tes péchés sur mon corps ? Alors pourquoi le péché demeure-t-il encore dans ton cœur comme auparavant ? » La rémission des péchés se reçoit uniquement par la foi. Celui qui croit à l'évangile de l'eau et de l'esprit confessera qu'il n'a pas de péché. Mais celui qui ne croit pas recevra le jugement et le châtiment pour le péché selon la loi. Dieu exécute exactement les statuts qu'il a prononcés, et il donne récompense et châtiment à ceux qui croient et à ceux qui ne croient pas selon cette parole. Par conséquent, on ne doit pas penser que tout le monde va au ciel simplement parce qu'il fréquente l'Église. Le cœur de la véritable foi réside dans cette connaissance et cette croyance. Ai-je correctement connu et cru à l'évangile de l'eau et de l'esprit ? Cet évangile apparaît clairement partout où l'on regarde dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Ceux qui croient en la justice de Dieu peuvent entrer abondamment dans le ciel, car ils peuvent confesser cette foi claire devant Dieu. Bien que notre justice humaine soit sale comme des vêtements souillés, Dieu nous a revêtus du vêtement appelé la justice de Dieu qu'il a lui-même préparé. Il est très important de savoir quel genre de foi nous devons avoir lorsque nous nous présentons devant Dieu. Celui qui croit à la parole de la justice de Dieu doit avancer en s'appuyant uniquement sur cette parole. On ne doit pas chercher à se présenter devant Dieu en se fondant sur des visions, des miracles ou une quelconque puissance mystérieuse. Ce qui est important, c'est de savoir quelle parole nous avons connue et comment nous y avons cru pour recevoir la rémission des péchés. Nous devons découvrir et croire en la justice de Dieu dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Ce n'est que lorsque nous avons cette foi que nous pouvons être reconnus devant Dieu et entrer au ciel. Même si nous avons des moments de faiblesse et commettons des erreurs en vivant sur cette terre, la puissance pour échapper à cette condamnation et aux attaques de Satan, le diable vient uniquement de la foi qui croit en la parole de l'eau et de l'esprit. Lorsque le diable nous accuse, nous devons pouvoir proclamer ainsi « Satan, retire-toi derrière moi. Le Seigneur a reçu le baptême dans le Jourdain pour moi. Il a versé son sang. et est mort sur la croix, puisque la Bible dit « Car il est convenable que nous accomplissions ainsi toute justice ». Toute justice n'a-t-elle pas déjà été accomplie lorsque Jésus-Christ a reçu le baptême ? Jésus a reçu le baptême de Jean pour prendre sur lui tous mes péchés, c'est-à-dire tous les péchés que je commettrai jusqu'à ma mort. Lorsque le Seigneur a été baptisé, tous mes péchés ont été transférés sur lui. Le baptême de Jésus était pour prendre sur lui mes péchés, sa mort était une mort à ma place, l'effusion de son sang sur la croix était pour me laver, et la résurrection était pour me donner une nouvelle vie. Lorsque nous croyons à cette parole avec conviction, nous pouvons proclamer avec assurance à Satan, le diable, « Je t'ordonne au nom du Seigneur Jésus-Christ, va-t'en ». Alors Satan voit notre foi dans la véritable rémission des péchés et s'en va. Ce n'est pas parce que notre volonté est forte ou que notre mémoire est bonne que nous pouvons garder notre foi devant Dieu jusqu'à la fin. C'est parce que la foi qui croit en la parole de la justice de Dieu est dans nos cœurs que nous ne pouvons pas renier Dieu. Nous pouvons vaincre Satan et surmonter notre faiblesse à tout moment avec la foi qui croit en cette parole et nous tenir devant Dieu. Celui qui ne croit pas à cet évangile n'est pas différent d'un état où l'enfer est déjà réservé. Mais celui qui croit est celui qui a reçu le Saint-Esprit comme don, est devenu enfant de Dieu et a obtenu la vie éternelle dans le ciel. Le Saint-Esprit agit si clairement pour les justes. Notre injustice démontre-t-elle la justice de Dieu ? Dans Romains chapitre 3, verset 5, il est écrit « Mais si notre injustice établit la justice de Dieu, que dirons-nous ? Dieu est-il injuste quand il déchaîne sa colère ? Tous les péchés que nous commettons révèlent-ils réellement la justice de Dieu ? Oui, il en est ainsi. L'homme est un être déficient qui commet constamment le péché depuis le moment où il naît du sein de sa mère jusqu'à ce qu'il entre dans la tombe. La quantité de ce péché est plus grande que les grains de sable de la mer, et plus sombre et plus noir que les nuages obscurs dans le ciel. Cependant, paradoxalement, ces péchés et nos insuffisances rendent la justice de Dieu encore plus clairement révélée. Parce que les hommes sont si faibles et si misérables, l'amour et la justice de Dieu contenus dans l'évangile de l'eau et de l'esprit qui nous a sauvés brillent encore davantage. Alors, Dieu qui inflige la colère et juge le pécheur est-il injuste ? Certainement pas. Il est tout à fait juste que Dieu juge et déchaîne sa colère sur ceux qui ne croient pas. Dieu a accordé la grande grâce d'effacer tous les péchés que l'humanité commet tout au long de la vie. Par conséquent, infliger un jugement à ceux qui ne croient pas à cet immense amour et à la justice de Dieu n'est en aucun cas un acte injuste. Il est tout à fait juste que la colère vienne sur celui qui ne croit pas à l'évangile de l'eau et de l'esprit qui contient la justice de Dieu. Les personnes qui vont en enfer parce qu'elles n'ont pas résolu le péché dans leur cœur, même en disant « croire en Jésus », ne peuvent pas protester contre Dieu. Parce que Dieu a clairement effacé les péchés de toute l'humanité par son Fils unique. Dieu le Père a envoyé Jésus-Christ sur cette terre. Lui a fait prendre les péchés par le baptême et nous a sauvés en le faisant mourir sur la croix. C'est le plus grand amour que Dieu a manifesté. Peu importe le nombre de péchés qu'une personne a commis, si elle ne rejette pas l'évangile de l'eau et de l'esprit, tout péché est ôté. Cependant, aller en enfer parce que l'on ne croit pas à la justice de Dieu qui a pris en charge tous ses péchés est un choix personnel et la colère qui en résulte est une conséquence inévitable. En fin de compte, la ligne de séparation entre le ciel et l'enfer est déterminée par le fait qu'il y ait ou non du péché dans le cœur, c'est-à-dire si l'on a cru ou non en la justice de Dieu. La colère de Dieu infligée aux âmes qui se dirigent vers l'enfer est tout à fait juste. Quel est le plus grand péché devant Dieu ? C'est rejeter cet amour, le fait qu'il a envoyé le Fils de Dieu, Jésus-Christ, pour qu'il prenne en charge nos péchés par le baptême et qu'il meure sur la croix. Ne pas accepter dans son cœur la justice et l'amour de Dieu et ne pas reconnaître la vérité de la rémission des péchés donnés par le Fils unique est le péché le plus redoutable. La raison pour laquelle les gens vont en enfer n'est pas à cause des péchés moraux, mais ils reçoivent le jugement à cause de ce grand péché de ne pas croire en la justice de Dieu. Y a-t-il des personnes qui vont en enfer, même parmi ceux qui croient en Jésus ? Oui. Celui qui ne croit pas au baptême que Jésus a reçu et au sang de la croix et qui met en avant sa propre justice est destiné à aller en enfer. Pourquoi vivent-ils en gardant le péché dans leur cœur, même en croyant en Jésus ? C'est parce qu'ils ne croient pas pleinement en la justice de Dieu et mettent en avant leur propre intelligence ou leurs propres efforts. Le péché demeure encore dans le cœur de celui qui continue à vouloir présenter ses propres mérites devant Dieu. Dieu se réjouit que nous accomplissions l'œuvre de l'Évangile pour sauver d'autres âmes du péché en reconnaissance du salut de Dieu. Une vie de sacrifice pour le Seigneur et de dévouement à l'Évangile est précieuse. Cependant, si quelqu'un essaie de se présenter devant Dieu en se fondant sur ses propres bonnes œuvres, Dieu ne l'accepte jamais. Les versets 6 et 7 disent « Loin de là, autrement, comment Dieu jugerait-il le monde? Et si, par mon mensonge, la vérité de Dieu éclate davantage pour sa gloire, pourquoi suis-je moi-même encore jugé comme pécheur ?» Celui qui croit dans le Seigneur dans son cœur, même au milieu de la faiblesse. Romains chapitre 3, verset 8, déclare « Et pourquoi ne ferions-nous pas le mal afin qu'il en arrive du bien, comme quelques-uns qui nous calomnient, prétendent que nous le disons ?» La condamnation de ces gens est juste. Est-il juste de commettre volontairement le mal pour révéler la justice de Dieu? Absolument pas. Que ce soit à l'époque apostolique ou aujourd'hui, les personnes qui ne croient pas en la justice de Dieu calomnient les justes en disant « Puisque tous les péchés ont été ôtés, autant commettre encore plus de péchés pour révéler davantage la grâce de Dieu. » Nous devons connaître clairement ce point. Le fait que nous commettions des péchés ne signifie pas que nous les commettons tranquillement parce que nous avons reçu la rémission de tous les péchés. Au contraire, même si nous ne voulons pas commettre de péché, nous finissons par en commettre parce que notre chair et notre cœur sont faibles. Il n'existe pas de fait de commettre davantage de péchés simplement parce que l'on a reçu la rémission des péchés. Au contraire, les justes qui ont reçu la rémission des péchés en viennent à se tenir loin du péché. Parce que le cœur d'une personne sans péché est sainte et le temple de Dieu, elle ne peut pas vivre avec joie au milieu des péchés impurs. Nous ne commettons le péché que parce que la chair est de faible. Nous ne commettons pas volontairement le péché pour jouir de cette grâce simplement parce que le Seigneur a ôté nos péchés. Tous les péchés commis après avoir reçu la rémission des péchés sont dus à la faiblesse. Parfois, nous commettons des péchés parce que notre foi est insuffisante. Les erreurs surviennent lorsque nous avons la foi du salut, mais que la foi pour faire pleinement confiance à la parole de Dieu est faible. Par exemple, supposons que des livres imprimés dans une imprimerie soient arrivés dans la cour de l'église. Lorsque ces livres doivent être montés au troisième étage, une personne forte les déplacera facilement, mais qu'en est-il d'une personne sans force? Ne recevra-t-elle pas, sans le vouloir, davantage d'aide des autres frères et sœurs? L'apparence de la foi est aussi comme cela. Certains demandent si nous, qui avons reçu la rémission des péchés, ne commettrons pas davantage de péchés tout au long de notre vie. Mais en réalité, c'est le contraire. Nous qui croyons en la justice de Dieu cherchons à rester loin du péché, car nous savons à quel point le péché est redoutable. Néanmoins, le fait que nous commettions des péchés est uniquement dû à la faiblesse de la chair humaine. Cependant, malgré cela, nous n'avons pas de péché, parce que tous les péchés ont déjà été effacés une fois pour toutes par la foi en la justice de Dieu. La foi de l'apôtre Paul, selon laquelle une personne qui ne croit pas à l'évangile de l'eau et de l'esprit reste un pécheur devant Dieu, peu importe combien elle croit en Jésus et qu'il est juste qu'elle reçoive le jugement de l'enfer à cause de ses péchés, est vraiment remarquable. Cette parole a été écrite il y a environ 2000 ans, au début du christianisme. Pourtant, de manière surprenante, les gens de cette époque ont aussi mal compris et calomnié l'apôtre Paul avec exactement la même logique que ceux qui nous calomnient aujourd'hui. Puisque la parole de Dieu ne change pas quelle que soit l'époque, les méthodes de Satan, le diable, qui s'oppose à la vérité, ne changent pas non plus. Satan attaque toujours de la même manière ceux qui sont nés de nouveau. Cependant, la manière de détruire les plans du diable, en croyant en la justice de Dieu, reste également inchangée. Par conséquent, peu importe comment Satan attaque vous et l'Église de Dieu, nous devons le vaincre par la foi qui croit en la justice de Dieu. Ceux qui ne connaissent pas l'Évangile calomnient les justes qui ont reçu la rémission des péchés en disant « Puisque vous n'avez pas de péché, vous pouvez pécher à votre guise. » Mais nous ne sommes jamais ainsi. Lorsque nous commettons un péché, nous reconnaissons que c'est dû à notre faiblesse, nous confessons immédiatement ce péché devant Dieu. Et nous confirmons encore une fois que le Seigneur a pris sur lui-même ce péché. Plus nous réalisons notre propre faiblesse, plus la justice de Dieu est mise en lumière profondément dans nos cœurs et plus la gloire de Dieu apparaît grande. En conclusion, quel avantage a le juif et quel est le bénéfice pour une personne qui croit en Jésus? Si l'on ne croit pas à l'évangile de l'eau et de l'esprit, il n'y a aucun bénéfice. Si quelqu'un reste un chrétien religieux en croyant seulement au sang de la croix, sans croire en la justice de Dieu, cela ne diffère en rien de croire en d'autres religions. La seule chose qui nous est bénéfique est de croire en l'évangile de l'eau et de l'esprit où la justice de Dieu est révélée. Même les justes qui ont reçu la rémission des péchés commettent des péchés en vivant dans le monde, mais Jésus a déjà pris sur lui tous ces péchés depuis longtemps. Lorsque nous reconnaissons notre insuffisance et croyons à la rémission des péchés que le Seigneur a déjà accomplie, son effet se manifeste en nous. Nous ne vivons jamais en commettant le mal simplement parce que nous avons reçu la rémission des péchés. S'il y a encore des personnes qui ne connaissent pas cette vérité, veuillez maintenant revenir à l'évangile de l'eau et de l'esprit. Alors, vous obtiendrez la justice de Dieu. J'espère que la bénédiction de croire en la justice de Dieu sera sur vos cœurs, que les fruits de l'évangélisation seront abondants, et je prie pour que la grâce du Seigneur soit toujours avec vous.